Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle neuve? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi,
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est 30 minutes pour parler de cinéma, pour jouer au blind test, mais aussi écouter eh bien, des réalisateurs, des comédiens. Et aujourd'hui, on aurait pu avoir deux réalisateurs. Il y avait d'un côté Costa Gavras et puis, comment s'appelle-t-il, Menucci pour le film Le Mohican, mais il a fallu en choisir qu'un seul. Et on va commencer par l'aîné quand même, réalisateur de 91 ans, Costa Gavras, qui sort Le Dernier Souffle, donc on l'entendra dans cette émission. Et puis aujourd'hui, parmi les films dont nous allons parler, on va parler d'un film qui est plutôt conceptuel.
Et c'est présence de Steven Soderbergh.
Et puis toi, Guillaume, alors on n'est pas d'accord, moi j'aurais dit qu'il était aussi conceptuel un peu dans son genre. Tu vas nous parler de quoi?
Oui, moi je vais vous parler de Prima la Vita, donc le film de Francesca Comencini sur son, entre autres, son père.
Et puis un deuxième film.
Oui, Les Damnés, un espèce de western italien, mais qui n'est pas forcément spaghetti.
Et toi, on va aller du côté de Marseille, Sophia?
Absolument, Vincent. Moi, je vous parlerai de La Mer au Loin, film de Saïd Hamish Benlarbi. Et c'est peut-être la seule fois où j'essaierai de prononcer son nom correctement.
Eh bien, félicitations tout de même. Allez, on débute cette émission avec un fantôme qui attend qu'une famille vienne dans la maison qu'il occupe. C'est Présence de Steven Soderbergh.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Plus jeune réalisateur avec lui mal à recevoir une palme d'or, hein, je crois à 26 ans, avec Sexe, mensonge et vidéo en 89, Steven Soderbergh n'est pas devenu, alors contrairement à certaines prédictions, on va dire un grand auteur indépendant, mais a construit une carrière dense et variée, alors faite de haut et de bas, à l'image de cinéastes hollywoodiens hein, comme Henry Hathaway ou plus tard John Frankenheimer, cette veine un peu en voie de disparition de véritables metteurs en scène, solides, capables de passer d'un genre à l'autre avec une facilité déconcertante. Alors en 36 ans, avec une bonne trentaine de films à son actif, hein, Soderbergh s'est emparé aussi bien du polar, de la comédie, du film politique, de la comédie musicale que du cinéma d'action, avec de temps à autre des virages aussi beaucoup plus personnels, voire expérimentaux. Alors insaisissable, il s'est toujours adapté à n'importe quel genre, avec parfois une désinvolture qui interroge sur sa sincérité, son implication réelle. Alors peu importe, parmi tous ces films, il y a d'éclatantes réussites, hein, comme entre autres Kafka, Fleur de Peau, L'Anglais, Bubble, ou encore récemment Logan Lucky. Depuis son retour au cinéma, après une pause de 4 ans, après avoir décrété arrêté définitivement, hein, il a enchaîné les tournages, soit une dizaine de longs métrages en moins de 10 ans. Avec Présence, il se confronte à un nouveau genre, le film d'épouvante, ou plutôt le film de fantôme pour être exact. Car de l'épouvante, il n'y en a guère.
Je connais personne qui est mort. Qu'est-ce que ça fait?
C'est flippant. Le monde se fissure et tu tombes dans un trou. Tu te demandes où est la personne. Et tu te demandes ce que ça ferait d'être à cet endroit aussi.
Soderbergh adopte un point de vue singulier à travers un dispositif casse-gueule, celui du fantôme, du début à la fin, en utilisant un appareil photo numérique. Hein, sous le pseudo de Pete Andrews, hein, Soderbergh est à la fois chef opérateur et caméraman de son film, multipliant les plans séquences virtuoses et les grands angles, hein, qui, une fois n'est pas coutume, se révèlent passionnants. Alors une question se pose néanmoins, hein, le film tient-il debout ou plutôt est-il cohérent du début à la fin? La réponse est oui, hein, grâce en partie au scénario précis et rigoureux de David Koepp, hein, qui, rappelons-le, a écrit entre autres L'Impasse de Brian De Palma et Jurassic Park de Steven Spielberg. La mise en place est un modèle d'écriture, hein, une famille emménage dans une nouvelle maison et d'emblée une présence mystérieuse entre les lieux. Cette présence, en vision subjective, devient le regard du spectateur qui va alors, en position de voyeur, observer le délitement de cette famille en crise. Le père est en pleine dépression, la mère autoritaire trempe dans des affaires commerciales pas nettes, le fils est présenté comme un arrogant qui cache un secret, et la fille, qui demeure le centre névralgique du récit, est traumatisée par un événement récent, la mort par overdose de deux de ses amis.
On est écoute un extrait de la bande originale du film, très présente. Hein.
Très présente et très, très bien en fait, hein, parce que c'est pas toujours le cas dans ce type de film. Hein. Alors la caractérisation des personnages est formidablement installée grâce à un sens du détail sidérant. Alors loin du film d'horreur traditionnel, la narration ne joue pas sur le terrain de la peur. En réalité, nous assistons à une sorte de sitcom retors sous l'angle d'une satire du conformisme de la famille modèle, scrutant la psyché des personnages en déroute. Soderbergh ne s'en tient pas à cette critique de l'Amérique contemporaine. Il greffe dessus une histoire alors plus conventionnelle, un post-MeToo, aux propos édifiants mais bien réels, qui va nous amener par ailleurs à un épilogue bouleversant que certains assimilent alors à un twist, ce qui n'est pas mon cas. Je pense qu'on n'a pas tous la même lecture du film. On pourra en débattre. Hein, mais la seule faiblesse du film tient peut-être dans l'incarnation du boyfriend, figure récurrente de teen movie ou de slasher, dont la personnification me semble très fléchée. Très vite, on devine les intentions de ce joli blond sportif tête à claque. C'est d'autant plus dommage que pendant une bonne moitié du film, on est plongé en plein mystère dans la circulation d'une toxicité qui touche tout le monde, les enfants comme les parents. Et on se demande qui peut bien être ce fantôme qui se promène dans toutes les pièces et parfois détourne son regard sur ce qu'il ne veut pas voir, ce qui peut frustrer le spectateur, mais apporte une cohérence totale au film. Ainsi, Soderbergh détourne aussi les codes du voyeurisme. Il est vrai que la dimension conceptuelle du projet, en forme d'exercice de style virtuose, n'augurait rien de très excitant, sauf pour les étudiants cinéma en manque de faux génie. Or, présent sidère par son incarnation, sa matérialité très physique avec des enjeux clairs et une adéquation entre le fond et la forme. Il en résulte un des meilleurs films de son auteur, un brillant divertissement à la fois ludique et très émouvant, qui est aussi pour grande qualité de ne durer qu'1h25. Et puis, c'est un petit hors-d'œuvre, hein, c'est un excellent hors-d'œuvre. En attendant un film, son nouveau film qui sort dans à peine un mois, The Insider, avec Kate Blanchett et Michael Fassbender.
Je m'en réjouis déjà. Alors j'adore Soderbergh.
J'ai dit Intruder, c'est The Insider.
Insider.
Voilà.
Alors j'adore Soderbergh, donc déjà c'était un peu plié d'avance. Mais tu notais cette caméra qui se retire à l'évocation de certaines scènes, notamment des scènes sexuelles. Alors il se trouve que dans la filmographie de Soderbergh, il est très difficile de voir des scènes sexuelles. C'est un réalisateur qui filme très peu le sexe à l'écran, et je n'ai même aucun exemple de sexe à l'écran.
Alors de souvenir, il y a peut-être un tout petit peu dans Sexe et mensonges et vidéos, en fait.
Et même pas,
mais
parce que c'est le propos,
mais on ne le voit pas.
Voilà, donc ça fait partie des choses où j'ai l'impression que là, il a même fait une espèce de citation de sa propre filmographie. En tout cas, c'est un film remarquable avec un dispositif très, très impressionnant. Et puis, le personnage du père est formidablement bien écrit.
Ça, c'est enfin, très, très bien. Mais même Lucy Liu, qui est excellente, parce qu'on est toujours... On est toujours dans une forme d'interrogation, on se demande, mais qui sont ces personnages en fait ? C'est-à-dire que là, il réussit vraiment à nous happer sur la personnalité des quatre membres de la famille. Mmh. Et ça, c'était je pense que c'était pas gagné. Et vraiment, moi, c'est un film qui m'a vraiment épaté. Hein.
Alors, au-delà d'un film d'épouvante, présence de Steven Soderbergh est actuellement sur les écrans. Évocation de la vie de Comencini par sa propre fille, nous parlons de Prima la Vita.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Prima la Vita et pas le cinéma !
Et oui, d'abord la vie après le cinéma. Hein. Donc, le grand public connaît bien Luigi Comencini. Alors, comment passer à côté de films comme Pain, Amour et Fantaisie, L'Incompris, qui sort d'ailleurs très bientôt en Blu-ray chez nous, mais aussi L'Argent de la Vieille, Les Aventures de Pinocchio, Le Grand Embouteillage, ou encore La Grande Pagaille. Autant de classiques du cinéma populaire italien, alors au firmament de sa gloire et de sa popularité. Luigi Comencini, c'est un style peut-être moins visible que ceux des Torre Scola, Dino Risi ou encore Federico Fellini, bien sûr, mais c'est une sensibilité à nul autre pareil et une humanité de tous les instants qui irradie la pellicule. Le, ou plutôt la Comencini que le grand public ne connaît peut-être pas ou un peu moins, c'est sa fille Francesca, elle aussi devenue réalisatrice, et qui nous propose avec Il Tempo Che Si Vuole, soit Le Temps Qu'Il Faut, étrangement re-italianisé en Prima la Vita en France, un film qui parle d'elle et donc, bien sûr, et en fait surtout, de son père.
È stato rapito il presidente Aldo Moro.
Non applaudite!
Prima la Vita, c'est donc l'histoire, quelque peu romancée, mais pas tant que ça en fait, hein, de Luigi Comencini et de sa fille Francesca. Alors leur pain quotidien étant la fantaisie, hein, ils vivent tous les deux dans une bulle d'amour. Vous l'avez, hein, c'est bon. Lui déborde d'imagination, de poésie et entraîne sa fille dans ces mondes merveilleux, hein, ceux qu'il met en scène de manière littérale puisqu'il est metteur en scène. Ils ont une relation père-fille fusionnelle et le père se régale tout autant que sa fille à faire découvrir les joies de la vie via les instants magiques qu'apporte la création. Mais l'innocence tant chérie par son père va bientôt quitter Francesca qui, elle, va quitter inévitablement le monde de l'enfance pour découvrir celui de l'adolescence, puis de l'âge adulte, hein, où tout est plus compliqué, moins contrôlable et plus agressif que les solutions trouvées sur un plateau pour établir un plan parfait. Francesca va sombrer dans la rébellion, la drogue et ainsi le mensonge et la colère vis-à-vis de son père, démurge sur un tournage mais impuissant à rediriger sa fille dans le droit chemin. Les mauvaises prises, hein, ne peuvent pas être effacées, il faut se contenter d'une seule et si elle n'est pas bonne, il va falloir faire avec. Hein, c'est donc tout un autre scénario qui va devoir s'écrire, hein, celui de l'improvisation, mais toujours guidé autant que faire se peut par l'amour et une foi inébranlable en la magie. Alors il est important à mon sens de noter que le film de Comencini, le plus représenté, c'est-à-dire recréé à l'écran pour Prima la Vita, c'est Les Aventures de Pinocchio. Alors cette adaptation du conte de Collodi raconte l'histoire d'une marionnette, un petit garçon de bois qui veut devenir un vrai petit garçon. Et pour ce faire, il va parcourir le vaste monde, quitter la bulle dorée du village de son père et va faire vivre à ce dernier les pires tourments avant un dénouement heureux. Il est donc facile de voir en Francesca Comencini une personnification de ce petit pantin de bois qui s'est brûlé les ailes en troquant le paradis du village réel et imaginaire du papa pour essayer de s'émanciper et de s'évader via des paradis, eux, artificiels. Et le fait qu'elle optera pour un mimétisme, telle une marionnette, en choisissant le même métier que son père pour se révéler, est assez troublant. Alors si l'introspection n'est pas une nouveauté dans la filmographie de Francesca, puisqu'elle avait déjà parlé des problèmes de l'addiction qui gangrène l'amour dans Piano Forte en 1984, elle prend ici des allures méta qui élèvent forcément un récit plutôt classique, mais qui va bien sûr rallier les cinéphiles amoureux du papa et y convient son émotion dans ses scènes les plus réussies. Alors Comencini, c'était une sensibilité à nul autre pareil, une humanité de tous les instants qui irradiait la pellicule. Et sans réinventer la roue, mais plutôt l'utiliser pour se retrouver dans un bel hommage, Prima la Vita est l'occasion d'enflammer la pellicule de nouveau, et par la même occasion, le cœur des spectateurs.
Alors j'ai vu ce film, moi ce que j'ai apprécié c'est la partie consacrée finalement au cinéma, parce qu'on peut dire qu'il y a deux parties, la partie biographique, la relation père-fille, et puis les tournages de cinéma qu'on vit, qui sont complètement étonnants, avec plein de figurants, enfin voilà, tout ça est très fourni et très bien représenté. Et puis il y a quand même un côté donc un peu conceptuel dans une bio, c'est-à-dire qu'elle a complètement effacé la mère et puis sa sœur, enfin voilà, donc il n'y a que elle et son père qui sont représentés à l'écran, alors qu'elle a bien eu une mère et voilà. Et,
c'est vrai qu'il y a un aspect presque huis clos par moment, en particulier bien sûr quand elle sombre dans l'addiction et que son père essaie de la contrôler.
Prima La Vita est en salle depuis le 12 février. Faire un film sur la fin de vie, Costa Gavras y tenait beaucoup.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Il y a des films plus faciles à financer que d'autres. Cela tient à différents ingrédients, dont l'un d'entre eux est le sujet. Celui auquel s'est attaqué Costa Gavras n'est pas le plus attirant, voire même un peu répulsif. La mort, ou plus exactement, comment accompagner ceux qui vont mourir. Le réalisateur de 91 ans l'avoue, s'il s'est intéressé au sujet, c'est qu'il se sent pas très loin de la fin. Et même si on sait qu'on va mourir un jour ou l'autre, comme dirait Yankelevitch, on espère que ce sera plutôt l'autre. Pour le dernier souffle, Costa Gavras s'est emparé du livre éponyme de Claude Grange et Régis Debray, le médecin-chef de service d'une unité de soins palliatifs accompagnant depuis 25 ans des malades en fin de vie, et donc le philosophe qui nous permet de prendre de la hauteur avec le sujet. Et dans le dernier souffle, les deux personnages sont représentés, et plus qu'une dissertation, le film est une incarnation du livre, non comme un documentaire qui nous montrerait différents cas, mais comme un semblant de fiction. Podalydès est un philosophe grand public, embêté par une petite tache sur un cliché de scanner, et dans le même temps, il rencontre donc un médecin qui accompagne des hommes et femmes en fin de vie, pas toujours cancéreux. De là naît une amitié et la volonté de partager un sujet.
D'ici 20 à 25 ans, il y aura plus de 4 millions de personnes qui mériteront une fin de vie digne.
Vous proposez quoi ?
Moi, je suis observateur. J'observe et je rapporte.
Pour Costa Gavras, l'essentiel est de montrer la mort sous l'angle de ceux qui restent, tout en considérant celui qui part. Costa Gavras compose ainsi avec ses deux personnages principaux, mais nous en offre d'autres, ceux qui sont évidemment proches de la mort. Alors entre ceux qui angoissent, ne veulent pas partir, ceux qui sont résignés, enfin voilà, il y a tout un tas de cas. Ceux qui le font en chanson avec une séquence de la mort romantique chez les gitans. Alors les exemples ne manquent pas, comme les points d'interrogation. Autre élément important du film, le réalisateur franco-grec épouse une vision méta en montrant la difficulté d'organiser un débat sur la fin de vie à la télévision. Il y a une longue séquence là-dessus et il n'y a rien de plombant. En revanche, dans Le Dernier Souffle, hein, le personnage de Podalydès, et je dirais Podalydès lui-même, parvient à naviguer entre angoisse, interrogation et une certaine forme de légèreté. Voilà, pendant tout le film, il apporte, il y a quelque chose dans le visage de ce comédien qui fait que on n'est plus dans quelque chose de très sérieux. Il ne faut pas compter sortir de ce film alors complètement exalté, évidemment, mais peut-être en ayant appris quelque chose sur nous-mêmes, sur notre condition, avec ce qu'il faut d'émotion. Nous allons bien écouter le résultat nonagénaire que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Festival du cinéma méditerranéen.
Je vous présente le docteur Augustin Masset.
J'ai lu vos livres. Le fléau des seigneurs m'a fait rire.
Mes livres vous font rire ?
Non, pas facile, ça, en effet, c'est pas facile. Parce que j'arrive à un âge où le problème va se poser pour moi assez rapidement. Donc j'ai voulu essayer de, comment dire, étudier cette époque, voir comment ça se passe à cette époque-là, à ce moment dramatique pour savoir, essayer de trouver une solution digne pour en finir. Mais d'ici là, moi j'ai compte faire d'autres films, n'est-ce pas ? C'est pas pour demain. Mais c'est essentiellement ça. Mais bon, mais je pense aussi que c'est un problème qui nous concerne tous et qui on nous apprend depuis qu'on est tout petit d'avoir peur. On ne parle pas de la mort. La mort n'existe pas. Et je voulais surtout parler de ceux qui restent. Et ce qui reste, c'est le plus important, finalement. Et ça dépend beaucoup de celui qui part, pour ne pas laisser une situation dramatique pour lui-même et pour les autres. Voilà. C'est cette idée-là, c'est-à-dire la dignité, finir dans la dignité. C'est le livre de Bray et de Grange qui m'ont permis de trouver les éléments qu'il me fallait pour faire cela, tout en disant en même temps que ça n'est pas une sorte de discours ni politique ni académique, c'est un spectacle. C'est un spectacle pour parler de ça, parce que le cinéma, c'est, pour moi, c'est essentiellement c'est un spectacle. Et je l'ai fait comme un spectacle cinématographique, c'est-à-dire avec une certaine légèreté et avec une vraie vérité.
Vos patients, vous leur dites toujours la vérité ?
Oui, rendre l'âme, je veux bien, hein. Mais dites-moi à qui ?
Pourquoi voulez-vous rendre quelque chose qui est à vous, à quelqu'un que vous ne connaissez pas ?
Je pense que Podalydès, c'est peut-être un des meilleurs acteurs, sinon le meilleur acteur français, hein. Voilà. Que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma. Et donc, j'ai toujours voulu travailler avec lui.
Il n'est pas d'ici, lui.
Oui, non, il est philosophe.
Personne ne veut croire réellement à sa propre mort et tout le monde en a une peur viscérale.
Il faut toujours dire la vérité à celui qui la demande.
J'ai décidé de changer, vu le contenu de l'histoire, d'adopter une technique de continuité. De ne pas couper beaucoup, de faire des scènes entières de seul coup. Voilà, je le fais la plupart du temps dans le film et je pense que c'était la forme qu'il fallait avoir pour ce film. Pour ne pas perdre à aucun moment le personnage, pour ne pas le voir de plusieurs angles, comme on fait souvent, pour trouver du rythme. Le rythme devrait être à l'intérieur du personnage, à l'intérieur des jeux du personnage, sans les interrompre, pour refaire autre chose, pour refaire encore et encore la même scène autrement.
Nous sommes un lieu de vie où l'on rit plus souvent qu'on ne pleure.
Tu fais un beau métier. Tu rends humain ce qui ne l'est peut-être pas.
Alors je me suis permis d'inviter Fabrice Toussaint. Il s'intéresse à ce que nous faisons.
Je vous promets d'être le plus discret possible.
Les gens pensent qu'automatiquement, quand on a fait des films qui ont marché, non, les gens regardent le sujet. Ils se disent, personne n'ira voir ce film, pensent-ils. On ne sait pas, peut-être c'est la vérité d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont raison, on verra. Alors la difficulté, c'est de trouver l'argent pour le faire. L'avantage dans ces films-là, c'est que les acteurs tous avaient accepté immédiatement.
Philosopher, c'est apprendre à mourir. Foutaise. Ce qui s'apprend, c'est comment aider le vivant à mourir.
Tu acceptes de parler avec notre psychologue ?
Mon psy est là-haut.
C'était Costa Gavras, le réalisateur du Dernier Souffle. C'est son dernier film en salle depuis le 12 février. Un immigré clandestin rencontre un flic et sa femme. Nous parlons de la mer au loin.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Quand je t'ai vu hier, je t'ai reconnu. Je me suis dit, il faut encore l'aider. C'est un signe du destin.
Avec La Mer au Loin, le réalisateur franco-marocain Saïd Hamish Ben Larbi poursuit son exploration des identités en transit et des souvenirs d'exil. Diplômé de la FEMIS et remarqué pour Retour à Bolène en 2018, il s'initie son troisième long-métrage, un film qui se veut à la fois une chronique du Marseille des années 90 et un récit initiatique sur fond de rail mélancolique. À travers le regard de Nour, jeune clandestin marocain arrivé en France en quête d'un avenir meilleur, La Mer au Loin raconte 10 années d'errance et d'apprentissage entre des illusions et instant de grâce. Une fresque où l'exil se danse autant qu'il se pleure, où la lumière du sud contraste avec le poids des frontières et les ombres du passé. Une odyssée romanesque ambitieuse et foisonnante qui tient presque toutes ses promesses.
Oujda, Maroc. S'il vous plaît, monsieur, ne me renvoyez pas.
Dès les premières notes de la bande-son, le ton est donné, le rail enveloppe le film d'une nostalgie brûlante à la fois lumineuse et tragique. Cette musique originaire du Maghreb, qui est devenue un phénomène dans les années 90 en France, portée par la diaspora notamment, rythme la trajectoire de Nour et de ses compagnons d'exil entre ivresse de liberté et douleur du déracinement en filigrane. Nour débarque à Marseille en 90, laissant derrière lui sa ville natale d'Oujda au Maroc. Il s'agrège à un groupe de jeunes marocains clandestins comme lui, Houssine, Khaled, Fadela et une française, Blandine, avec qui ils partagent ensemble la même insouciance. Tous survivent de petits boulots, mais surtout de combines et de fêtes. Défiant cette mer au loin, en goûtant sur son rivage à une autre vie que celle qu'ils connaissaient outre-Méditerranée. Se trouver une Miss Visa est une option, mais le mariage régularisateur reste un fantasme lointain, tant ils sont accaparés par une fièvre de vie dévorante. Le film est chapitré sur une décennie, de 90 à 2000, suivant Nour dans sa construction de rencontre en rencontre et des illusions. Son destin croise celui de Serge, Grégoire Collin, donc un policier ambigu, et donc de sa femme Noémie, Anna Mouglalis, couple bourgeois et libertaire, voire libertin, qui va marquer son parcours. L'inspiration de l'éducation sentimentale de Flaubert est revendiquée, roman de la coïncidence, des rencontres de trottoirs et des illusions perdues, qui façonne également le récit du cinéaste, également au scénario. La Mer au Loin s'inscrit également dans une tradition de cinéma naturaliste méditerranéen qui capte le mouvement du réel oscillant entre intime et politique, qu'on retrouve autant dans le regard immersif d'Abdelatif Kechiche que dans l'approche plus sensorielle de Nabil Ayouch dans le film Much Loved, notamment, dont Hamish Ben Larbi était aussi producteur.
Je sais même pas ce qui m'a pris de te ramener chez moi, c'est totalement interdit. J'ai parlé à ma femme, tu peux rester chez nous, une nuit ou deux.
T'es bien installé?
Pourquoi tu fais ça?
Tu sais, avec Serge, on s'aime comme ça.
Si La Mer au Loin brille par sa bande-son poignante et sa photographie solaire, il repose avant tout sur la présence lumineuse d'Ayoub Greta qui incarne Nour, prénom qui se traduit par « lumière » en arabe. Avec une justesse étonnante pour un premier rôle, irradiant le film d'une sensibilité contenue. Ceci étant dit, l'ensemble est desservi par des maladresses scénaristiques et des choix de mise en scène inégaux. Certains personnages secondaires semblent caricaturaux au possible, notamment la famille italienne de Serge, engoncée dans des archétypes un peu trop appuyés, moitié raciste, moitié homophobe. La scène d'affrontement lors d'un anniversaire vire au grotesque, puisqu'elle est vraiment trop appuyée pour être crédible. Anna Mouglalis, d'ailleurs, d'ordinaire assez fascinante, peine ici vraiment à convaincre. Elle est mal dirigée ou peut-être tout simplement en roue libre. Elle oscille vraiment entre le théâtral et le désincarné, en décalage en fait face à un Grégoire Collin plus mesuré, à l'ambivalence déconcertante. Le plus grand écueil en fait du film reste peut-être son écriture qui est parfois un peu brouillonne et trop démonstrative. Si l'ambition de mêler chronique sociale, récit initiatique et fresque musicale est louable en soi, l'ensemble souffre un peu d'un excès de personnages et d'arcs secondaires mal exploités. À force de vouloir embrasser trop d'enjeux, l'exil, l'amitié, la précarité, la quête d'amour, tout en mettant en lumière les problématiques d'homophobie, de racisme, de fétichisation, le grand fléau du sida à l'aube des années 2000, le film dilue son intensité, même s'il a le mérite de nous embarquer.
ما تخمم على حتى حاجة تعيش حياتك أنا نعيش وقت
قلبي تفضل راحت ونسيتني
Car pourtant, lorsqu'il se recentre sur l'intime, sur ces petits moments volés où rêves et regrets se frôlent, la mer au loin touche juste. C'est le cas lorsqu'au crépuscule du film, Nour et Houssine se retrouvent durant une pause sur l'exploitation agricole sur laquelle ce dernier travaille, tête baissée toute la journée. Il fait découvrir à son ami un morceau, Ndirek Amour, qu'on vient d'entendre, le chant de Cheb Nasrou. Et sur ce morceau, dont les riffs pleurent, ils réalisent qu'ils ont tous deux possédé sans le savoir tout, l'amour, la jeunesse, la fête, l'amitié. Et il sourit avec une mélancolie bouleversante. Un des plus beaux moments du film, à mon sens, qui capte les échos de l'exil entre éclats de lumière et illusions brisées sur les berges de la Méditerranée.
La mer au loin est en salle déjà depuis le 5 février. Le sens de l'engagement est questionné par des soldats durant la guerre de sécession. Nous parlons des damnés.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinérama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Des loups qui se disputent une charogne dans un bois gelé. Bah, c'est le point de départ des damnés. Hein, et un signe, c'est une note d'intention qui annonce le ton à venir du film. Alors, photographie plutôt terne, flou d'environnement proche très présent. Le terrain que ces protagonistes vont arpenter ne va pas être de tout repos et leur quête va se dérouler sans joie. Alors, si on se demande qui représente quoi dans cette scène pré-générique, à savoir si nos héros vont être les loups ou la proie, ce qui suit le carton introductif ne leur donne de toute façon pas plus de posture glorieuse à défendre. Avec ce flou d'environnement proche très présent mentionné plus tôt, on se rend compte qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur fusil. Et cette promiscuité forcée, alors qu'ils découvrent les grands paysages majestueux de l'Ouest, signale que le danger est aussi proche que leurs vies sont fragiles. Les Danais ont gagné un prix de la mise en scène dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2024. Un palmarès qui ne cesse d'interroger au fur et à mesure que les films sortent en salle.
Time when I had a chance to shoot, it was like I was just standing back watching myself when the gun went off. Like it just happened.
Pourquoi ce point de vue extrêmement étriqué sur ce qu'il filme ? Eh bien parce que Les Damnés est un film extrêmement étriqué de manière générale, et ce malgré ce qu'il ambitionne de mettre en scène, malgré son budget qu'on imagine assez modeste. Alors nous sommes en pleine guerre de sécession, pendant un hiver 1862 particulièrement rude, et une compagnie de volontaires est envoyée à l'ouest pour effectuer une patrouille dans des régions inexplorées. Ce voyage est l'occasion, comme tout voyage, de devenir une introspection au fur et à mesure que les difficultés s'accumulent, révélant la vraie nature de ces hommes. Alors comme son nom l'indique, Roberto Minervini est italien, mais a fait l'ensemble de sa vie et de sa carrière aux États-Unis, d'où le choix d'un western. En 2024, ce choix est intéressant, car il pourrait constituer une nouvelle étape ou une œuvre d'introspection sur un genre typiquement américain qui a été totalement réinventé par les Italiens dans les années 60, avec bien évidemment en fer de lance un certain Sergio Leone et, entre autres, sa trilogie des dollars. Surtout qu'il veut exprimer un point de vue qui pourrait être pertinent. Alors, je le cite, « J'ai toujours eu un problème avec les films de guerre en raison des archétypes que l'on y rencontre. L'idée de la juste cause, la lutte du bien contre le mal, la vengeance, l'héroïsme. Il n'y a jamais eu une approche que je pourrais qualifier d'humaine. Au lieu de cela, on nous propose des archétypes qui propagent des idées fausses et des croyances au sujet de la guerre. Je trouve incroyable que les gens soient enclins à faire confiance à un gouvernement en matière de guerre et de défense, surtout ici aux États-Unis, mais pas seulement. La guerre devient une chose intouchable et l'héroïsme guerrier se retrouve sacralisé. » Voilà donc le pourquoi de ce flou d'environnement généralisé. Il n'y a pas de vision épique et le réalisateur souhaite épouser un style documentaire qui efface toute ligne du front et donc d'horizon, pourtant si importante dans ce genre. Et ce n'est pas le titre du dernier opus de Kevin Costner, lui aussi présenté à ce même festival de Cannes mais reparti bredouille, qui nous contredira. Quant au titre, si Minervini cite le nom d'un de ses groupes de punk préférés comme référence ou l'idée, je cite qu'une fois qu'on entre en guerre, une fois qu'on a combattu, c'est la fin de quelque chose et qu'on est pour ainsi dire condamné, difficile de ne pas penser à un monument italien du même nom signé Visconti, qui lui risque de perdurer bien plus longtemps dans les mémoires, ne serait-ce que parce que le fond de son film est aussi riche et important que sa forme.
Les Damnés est en salle depuis le 12 février. Nous parlons très vite de The Order.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Il peut y avoir des bons films sur les plateformes. La preuve avec The Order de Justin Kurzel, réalisateur à qui l'on doit l'excellent Nitram, qui avait valu à Caleb Landry-Jones le prix d'interprétation à Cannes. Pour The Order, alors on change de décor, on quitte la Tasmanie pour l'Amérique profonde. Dans les années 80, en suivant un groupe suprémaciste blanc qui sème la pagaille en faisant des hold-up, meilleur moyen de financer une guerre contre l'État américain. Jude Law, décidément impeccable, avec une moustache peu Seyant incarne un agent du FBI qui semble avoir toujours sacrifié sa vie de famille pour les enquêtes. Face à lui, un groupe bien préparé qui croit dur comme fer à son combat. Le film navigue entre ces deux pôles, les bandits et les policiers. Il navigue aussi entre différents personnages secondaires suffisamment écrits pour qu'on s'y intéresse et des plans nombreux de nature donnant le change aux tourments qui occupent les poursuivis comme les poursuivants. Avec ça, la mise en scène est propre, soigneuse, avec une lumière légèrement sombre et un traitement sonore d'une qualité alors là vraiment remarquable, tout en nuances et délicatesse pour peu qu'on ne s'en tienne pas évidemment aux seules enceintes de la télé. Nous parlions donc de The Order qui est sur Prime Video.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine encore avec une interview. Cette fois-ci, ce sera le réalisateur du film français Le Mohican. À la semaine prochaine.